AFM, le journal.
Lundi 12 novembre 2018, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de GIR AFM, le sommaire. À Bangui, les membres de la Cour constitutionnelle ont été informés sur le processus de la RSS en temps des réformes du secteur de sécurité, ceci pour mieux jouer leur rôle de garant de la Constitution. Vous entendrez le vice-président de cette Cour dans cette édition. Et puis 450 bénéficiaires des projets Timo de Bambari ont été rémunérés après des travaux communautaires. Christian Balou nous en dira plus dans ce journal. La section affaires civiles de la MINUSCA de Kagabandoro veut préparer le retour pacifique des déplacés de la sous-préfecture d'Embré. Un atelier de 3 jours a ouvert ses portes samedi dernier dans la ville. Sport, 5e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Les Fauves quittent ce matin Bangui pour Kigali au Rwanda. Merci de votre fidélité à GIR AFM.
GIR AFM.
À la une de cette édition, la connaissance du processus de RSS entendait la réforme du secteur de la sécurité qui permettra à la Cour constitutionnelle de jouer son rôle de garant de la Constitution. Ce sont là des propos tenus par Jean-Pierre Waboué, vice-président de la Cour constitutionnelle. Ceci à l'issue d'une session d'information organisée vendredi dernier à l'intention des membres de la Cour constitutionnelle. Les échanges ont surtout porté sur la stratégie nationale de mise en œuvre de la RSS. Écoutons Jean-Pierre Waboué, vice-président de la Cour constitutionnelle, dans des propos recueillis par Flora Elodie Bombo.
Ce que nous avons retenu, c'est que de par le bilan qui a été fait, nous avons maintenant une meilleure connaissance du système de réforme de sécurité, de ses différentes composantes, des documents qui sous-tendent cette importante réforme pour la République centrafricaine. Et nous avons, par la richesse des exposés qui ont été faits, nous avons pu élargir notre champ de connaissance sur cette importante activité en République centrafricaine qui intéresse tout un chacun. Ces informations nous seront très utiles dans la mesure où nous sommes une institution gardienne de l'ordre constitutionnel, la Haute Cour de justice. Et donc, nous qui sommes gardiens de cette constitution, eh bien, nous sommes venus nous informer sur la réforme du système de sécurité, ce qui nous permet de bien comprendre et de bien jouer le rôle qui nous est dévolu par la constitution de notre pays.
Vous écoutez le journal de GIR AFM, analyse et transformation de conflits intercommunautaires. Un atelier de 3 jours a ouvert ses portes ce samedi à Kagabandoro. Initié par le sous-préfet d'Embré, cette rencontre est organisée par la section affaires civiles de la MINUSCA à l'endroit des personnes déplacées de la sous-préfecture d'Embré et du comité paix et réconciliation. Objectif, préparer le retour pacifique des déplacés de la sous-préfecture d'Embré dans leurs villages respectifs. Jean-Gilbert Bakoutour, le sous-préfet d'Embré, s'en explique au micro de Merveille Noël Amada.
Vous savez, la sous-préfecture d'Embré avait traversé un moment difficile depuis le mois de juin. Depuis le 22 juin jusqu'au 30 juin, plus de 13 000 habitants sur 27 200 habitants sont dans la nature. Donc, devant ce drame, je suis obligé d'initier des correspondances un peu partout pour que les humanitaires, le gouvernement, la MINUSCA volent au secours de la population d'Embré. Disons le retour des déplacés. Parce que certains déplacés sont au niveau de Kakabandoro, d'autres sont au niveau de Kotamali, l'axe Kakabandoro, Azen, et d'autres sont sur l'axe Ndometé Dekwa. Donc l'important c'est de discuter sur la paix, discuter sur le retour des déplacés.
GIR AFM.
L'Organisation internationale pour l'immigration (OIM) poursuit la mise en œuvre du projet Timo, travaux à haute intensité de main-d'œuvre à Bambari. Cette semaine, 450 bénéficiaires ont été rémunérés après avoir accompli des travaux communautaires. Depuis Bambari, la correspondance de Christian Balou.
Après 24 jours de travail, les bénéficiaires du CVR de la MINUSCA en partenariat avec OIM ont fini la phase des travaux rémunérés Cash for Work. C'est dans la cour de la mairie de Bambari que la dernière phase de cette opération s'est déroulée.
Je m'appelle Mustapha Boukar Ousmane. Cet argent là permet à la bénéficiaire de libérer un peu l'association et mettre un peu les bénéficiaires à l'aise, quoi.
Oui, ça permet de nous prendre en charge, ça nous aide beaucoup.
Donc, vous êtes satisfait,
hein? Oui, nous sommes très satisfaits à cause de ce que l'OIM nous a fait.
Mais vous êtes dans quel domaine d'activité?
Nous sommes actuellement dans les phases de Timo et puis après la deuxième, on va aller dans l'AGER. On va prendre notre AGER pour que nous faire notre activité avec.
Mais ça vous sert, vous arrivez quand même à vous prendre en charge à la maison?
Ça coule, ça va très bien.
Ça va très bien.
Les travaux entrepris permettent de rendre le cadre de vie des populations plus agréable et comprennent des activités telles que le désherbage, le curage, le drainage des canaux et aussi la construction des infrastructures communautaires. Christian Noira est le chef de bureau de l'OIM à Bambari.
Il s'agit du paiement des bénéficiaires de Cash for Work qui ont terminé leur dernière rotation après 24 jours de travail. Et bien, ces bénéficiaires ont participé à des travaux dits communautaires qui rendent service à la population, à savoir principalement la réfection des routes, l'assainissement et puis également la construction d'infrastructures dites communautaires comme écoles ou stades.
Ces activités visent également à renforcer la cohésion au sein des groupes de travail mixtes. Christian Noira, chef de bureau de l'OIM à Bambari.
Nous mélangeons à la fois les gens de confessions religieuses différentes, nous mélangeons aussi les gens d'origine, avec des profils différents, c'est-à-dire des personnes qui viennent de groupes armés, avec des jeunes de la communauté pour leur apprendre à cohabiter, à vivre ensemble et à se réinsérer socialement.
Très bientôt, les bénéficiaires de ce projet recevront leur kit d'installation. Ensuite, ils seront formés dans le domaine d'activité qu'ils auront choisi. Christian Balou, Guira FM, Bambari.
Retour à Bangui avec ces 28 jeunes qui viennent d'achever une formation de 3 jours en hôtellerie. Une formation dispensée par l'Association Jeunesse pour le Développement de Centrafrique, en abrégé HMADEC. La cérémonie de remise des certificats s'est déroulée samedi 10 novembre à Bangui. Alexis Makorimberdé était présent pour le compte de Guira FM, suivant son reportage.
La remise de ces certificats est le couronnement de 90 jours d'apprentissage théorique et pratique. Rosens Zalangatondang est le directeur pays de l'Association Jeunesse pour le Développement de Centrafrique.
L'objectif de cette formation est de promouvoir le savoir-faire sur les jeunes. Et nos frères auront un métier. Ils ont un métier maintenant qu'on commence de confirmer. Après cette formation, c'est de chercher à les placer. Nous, notre politique, c'est de ne pas former et de laisser dans la nature. Mais on veut les placer dans les institutions de la place nationale qu'internationale.
Pour tout Serge Donald, l'un des récipiendaires exprime ici sa joie après la réception de son parchemin.
Et ma joie est celle-ci. Après cette formation, nous sommes sûrs qu'on va promouvoir ce que nous avons étudié, l'idéal, et que dès que nous avons reçu les certificats comme ça, c'est à nous de créer une association. On ne peut pas attendre toujours les partenaires au développement. Quoi que ça, un établissement pour nous prendre en compte, quitte à nous de créer au premier pas une association pour nous aider afin d'échapper au chômage.
Les modules enseignés pendant cette formation sont les droits sociaux, la déontologie professionnelle, l'entretien du ménage et la cuisine générale.
Guira FM, dossier sport.
Cinquième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Les Fauves quittent ce matin Bangui pour Kigali au Rwanda. Ils auront en tout 6 jours de stage bloqué sur place dans la capitale rwandaise, histoire de s'acclimater dans ce pays qui est en altitude. Le match aura lieu le dimanche 18 novembre à partir de 16h. Match que vous allez suivre en direct sur les ondes de Guira FM. Pour espérer rester dans la course, les Fauves doivent impérativement battre les Abeilles du Rwanda avant de recevoir lors de la dernière journée ici à Bangui la Guinée qui jouera son 5e match ce 18 novembre face à la Côte d'Ivoire. Basketball, démarrage aujourd'hui au Palais des Sports des éliminatoires de la Coupe Nationale. Le premier match va opposer Tondema à Gospel, puis Plateau va jouer contre New Tech. Le dernier match de ce lundi se jouera entre BAfrica et BAC. Le 13, les Abeilles discuteront la manche avec Tongolo, tandis que Mazanga sera face à Asopété et Hit Trésor aura comme adversaire Diba. Les demi-finales auront lieu du 26 au 28 et la finale est prévue pour le 30 novembre. Place à l'invité de la rédaction.
L'invité de la rédaction.
Dans l'espace invité de la rédaction d'aujourd'hui, nous recevons Yves Kokoyo, officier des affaires judiciaires et pénitentiaires de la MINUSCA. Il nous parle des résultats attendus de la formation en faveur des autorités judiciaires du ressort de la Cour d'appel de Boire sur le traitement judiciaire des cas de flagrant délit. Il est au micro de Nestor Ndikoumana. C'est une rédiffusion.
Yves Kokoyo, officier des affaires judiciaires et pénitentiaires à la MINUSCA, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
La section justice et affaires pénitentiaires vient d'organiser une formation de sensibilisation des autorités judiciaires du ressort de la Cour d'appel de Boire sur le traitement judiciaire des cas de flagrant délit. Premièrement, que comprendre par la procédure de flagrance ?
Les cas de flagrant délit sont les cas où l'infraction qualifiée délit ou crime vient de se commettre ou a été commis dans un temps voisin de l'action et le suspect est surpris avec des indices ou avec des preuves. Ou bien c'est le cas où le propriétaire d'une maison habitée requiert un officier de police judiciaire ou le procureur de constater qu'il y a eu une infraction commise à son domicile.
La formation que vous avez organisée, c'est axée sur les cas de flagrant délit. Est-ce qu'il y a une raison pour ça?
La raison fondamentale est le fait que, au cours de nos différents monitoring, puisque nous donnons des appuis, des accompagnements, des suivis dans tous les cas de procédure, dans les magistrats ou les OPJ sont en charge, et nous avons constaté qu'il y avait des dysfonctionnements qui entamaient ou qui ôtaient le caractère de la flagrance à certaines procédures. C'est pour cela que pour capitaliser les bonnes pratiques ou amener les officiers de police judiciaire ainsi que les magistrats du ministère public à bannir ces mauvaises pratiques, nous avons organisé cet atelier ensemble pour scruter un autre horizon où les magistrats et les OPJ seront plus respectueux de la loi et respectueux de la procédure de flagrance parce qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements qui sont constatés tant au niveau de la phase de l'enquête policière qu'à la phase de poursuite. Suite ainsi qu'à la phase de jugement. Donc, nous sommes là pour amener à réfléchir, à faire des recommandations pouvant permettre aux uns et aux autres de respecter la procédure de flagrance qui est une procédure de célérité. Nous allons recenser ensemble les mauvaises pratiques, les obstacles qui font que la procédure de flagrance n'est pas suivie par les OPJ comme par les magistrats. Ces recommandations permettront à tous les acteurs judiciaires de pouvoir respecter la loi et de poser des actes de procédure qui soit conforme à la légalité.
Justement, parlant de ces dysfonctionnements, ces cas d'obstacles à la célérité du traitement judiciaire, des cas de flagrance, on peut citer lesquels?
Oh, les exemples sont légion, hein. Je vous citerai au passage que lorsqu'une infraction flagrante est commise, l'OPJ doit en informer immédiatement le procureur de la République, qui se transporte sur le lieu. Et lorsque le suspect est gardé à vue, sa durée de garde à vue ne doit pas dépasser le délai prescrit par la loi, qui est de 72 heures renouvelable une seule fois. Et puis lorsque le suspect, le prévenu, je veux dire, comparaît devant la formation du jugement, le président doit l'aviser de ce qu'il a un droit, et ce droit, c'est de choisir un avocat pour préparer sa défense. Et lorsque c'en est ainsi, le délai que le président lui donne pour exercer ce droit ne saurait dépasser les 3 jours prévus par la loi. Or, en la matière, des fois, on se rend compte que ces 3 jours durent éternellement. Et nous sommes là pour rappeler à tous les acteurs judiciaires qui doivent se conformer à la loi.
Avez-vous le sentiment que, après cette formation, vous auriez contribué à quelque chose pour changer la situation?
Tout à fait, monsieur le journaliste. Je pense que, de l'impression que j'ai par rapport aux échanges que nous avons eus durant ces 48 heures avec les magistrats et les OPJ, ce sont des échanges empreints de franchise. Les uns et les autres reconnaissent leurs erreurs, ils savent que, bon, on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça. Mais aujourd'hui, nous prenons la résolution de nous améliorer et de nous conformer à la légalité. Je cite à titre d'exemple le fait que les magistrats n'avisent pas, par exemple, le condamné qu'il a 10 jours pour faire appel est un manquement grave. Et aujourd'hui, ils en ont pris conscience. Un autre exemple, c'est le fait que les délais de garde à vue sont anormalement longs. L'autre fait, c'est que les OPJ décernent des billets d'écrou alors qu'ils sont dans la même ville que le procureur, alors qu'ils n'ont pas de difficultés de communication. Ce sont autant de dysfonctionnements pour lesquels les OPJ et les magistrats ont pris des résolutions pour pouvoir changer. Et j'espère que à l'issue de cet atelier, nous allons récolter tous les fruits qui consistent à se conformer à la loi et que le droit du prévenu ou du suspect soit respecté depuis la phase policière des enquêtes jusqu'à la formation de jugement.
Certains magistrats évoquent le problème d'appui logistique pour pouvoir traiter avec célérité les cas de flagrance. Qu'en dites-vous?
Les cas de flagrance n'ont pas tous besoin d'un appui logistique. C'est-à-dire, il faut étudier ces cas-là, cas par cas aussi. Parce que c'est pas tous les cas qui nécessitent un appui logistique. Je vous donne un exemple. Si dans la ville de Bois, il y a un délit flagrant qui vient d'être commis, on n'a pas besoin d'un appui logistique quelconque. La brigade défère tous les suspects au parquet de Bois. Le problème logistique se comprendrait lorsque c'est des crimes commis très loin, éloignés du parquet à ce moment. Dans le cas des UTM, lorsque les suspects qui ont commis les infractions évoluent dans une sphère où il n'y a pas les forces de sécurité intérieure, là où il n'y a pas d'autorité judiciaire ni pénitentiaire, à ce moment-là, à travers les mécanismes que nous appelons mesures temporaires d'urgence, la MINUSCA est prête, et l'a toujours fait d'ailleurs, pour appuyer logistiquement afin de déférer la personne au parquet.
Monsieur Yves Kokoyo, officier des affaires judiciaires et pénitentiaires, merci beaucoup.
Merci pour m'avoir donné l'occasion de parler de cet atelier. Franchement, merci.
Fin de ce journal du 12 novembre, le rappel des titres.
Les membres de la Cour constitutionnelle informés sur le processus de RSS pour mieux jouer leur rôle de garant de la Constitution. Nous avions entendu Jean-Pierre Waboué, le vice-président de la Cour constitutionnelle, dans cette édition. À Bambari, 450 bénéficiaires des projets TIMO ont été rémunérés après des travaux communautaires. Vous avez suivi les détails avec notre correspondant Christian Ballot. À Kagabandoro, c'est la section affaires civiles de la MINUSCA qui veut préparer le retour pacifique des déplacés de la sous-préfecture d'Embré. Elle organise depuis samedi un atelier de 3 jours sur le sujet sport. 5e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Les Fauves quittent ce matin pour Kigali au Rwanda.
Dira FM.
Merci d'avoir écouté ce journal préparé par toute l'équipe de la rédaction de Guira FM. Jean-René Sénat était à la technique, Fleury Roger Coursanet à la présentation. Très bon début de semaine en compagnie de Guira FM, les ondes de la paix.